Le Salon des maires et des collectivités locales du 18 au 20 novembre 2025 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Procivis et IDPRO sur Radio Imo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, je prends le relais avec Bérénice, mais Bérénice reste toujours avec nous sur le plateau. Notre super Bérénice qui est avec moi, ça va toujours Bérénice?
Mais en pleine forme et vous?
Ah ben, sans vous, je ne peux rien faire. Ça peut être très simple. Il est 16h23, on est en direct, on ne pouvait pas le louper.
Ah,
il n'était pas prévu sur le conducteur, mais dès qu'on l'a eu, on lui a sauté dessus littéralement. C'est le président de la Fédération Française du Bâtiment, il fallait qu'on l'ait sur le plateau et il nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonjour Olivier Salleron.
Bonjour, bonjour à vous deux. C'est vrai qu'on est des petits nouveaux parce que c'est seulement la deuxième année que la Fédération Française du Bâtiment participe avec un joli stand, vraiment, à ce Salon des Maires.
Absolument.
Et nous en sommes fiers.
Pourquoi cette décision de participer?
Pourquoi? Parce que c'est Salon des Maires et des collectivités locales, mais pas que. Et en fait, tous les élus, moi, depuis l'an dernier, depuis deux jours, je rencontre à la fois les élus locaux, les maires, les présidents de conseil, les présidents de conseil de département, mais aussi beaucoup de parlementaires, beaucoup de gens influents, beaucoup de ministres, d'ex-ministres, etc. Et je crois qu'il faut qu'on soit là. Le bâtiment, on le sait, hein, dans l'aménagement du territoire, pour les maires, c'est tellement important. Ça regroupe l'ensemble de nos activités locales. Je rappelle quand même, il y a un artisan du bâtiment ou entreprise dans 92% des communes de France. Notre place, elle est réellement ici.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les maires, quand ils vous voient? Qu'est-ce que vous leur dites? Quel langage vous leur tenez? Quelle morale ils ont à l'aube des élections?
Alors nous, on a un discours toujours assez positif avec les élus locaux parce qu'on les connaît bien. On sait les besoins qu'ils ont, on sait l'aménagement du territoire, on sait les besoins en construction qu'ils ont, en construction neuve, mais pas que dans les zones tendues, et ça on se bat depuis des années. On sait aussi les besoins de rénovation énergétique de leur bâtiment administratif, la gestion aussi en régulation de leur bâtiment, mais aussi eh bien, de leur commerce, de leur petite usine ou usine, et bien sûr la rénovation énergétique de l'ensemble des locaux de nos concitoyens, c'est-à-dire des particuliers, qu'ils soient dans le domaine locatif privé ou locatif social aussi. Donc on est de très gros acteurs, nous, pas que la Fédération, on va dire allez, l'ensemble du monde du bâtiment et des travaux publics. D'ailleurs, les travaux publics sont là depuis des années et des années, ce qui est bien normal. Mais en tout cas, nous, c'était vraiment très important de leur dire on est là, on est toujours là, et de toute manière... Quoi qu'il en soit, malgré les difficultés que vous connaissez avec le manque de subventions, on en est bien conscient, hein, le manque de moyens avec des collectivités qui sont, qui sont très attentives à la dette qui pourrait aussi créer. Voilà, on n'est pas des dépensiers, on n'est pas des demandeurs de subventions, on n'est pas ceci. On bien veut sûr. Aménager le territoire. On a des solutions quelquefois. On peut amener aussi des financements. Et surtout, on est là pour employer leurs concitoyens. Alors,
justement,
localement.
On va rentrer un peu plus dans le détail. Bérénice.
Oui, pas oublier de rappeler que le bâtiment, la filière en construction bâtiment, c'est 5% du PIB. Hein, c'est bien ça, les derniers chiffres.
C'est plus que ça.
C'est plus
alors
que
là,
ça.
Non, je gonfle pas d'ailleurs. C'est entre 6 et 7% du PIB.
C'est énorme. Hein.
Si on rajoute nos amis, cousins, frères des travaux publics, on monte à 8, 8,5, 9. Si on rajoute, comme vous dites, la grande filière de la construction bâtiment immobilier que vous connaissez bien, Radio Imo, je les vois tout le temps passer, d'ailleurs souvent membres de l'Alliance pour le logement, les 10 grandes fédérations, plus les constructeurs de matériaux aujourd'hui...
Les industriels.
Industriels du bâtiment, et beaucoup de grands faiseurs mondiaux sont français, et surtout aussi de bâtiments et de produits biosourcés, ce qui est tellement important. Écoutez, peut-être que je pousse un petit peu, mais on n'est pas loin de 14-15% du PIB français.
C'est des emplois, c'est de l'économie locale. Oui. Faut le rappeler, ça aussi.
C'est pratiquement plus de 3 millions d'emplois si on fait tout ça. Déjà, rien que nous et les TP, le BTP français, au niveau des actifs, on est à 2,3 millions d'actifs.
Une économie locale, Bérénice a raison, non délocalisable. Je peux le dire, ça?
Bien sûr, mais c'est
donc
la
réalité. Donc, vous représentez, finalement, la tête de pont de l'industrie française. À l'heure où on parle de la relocalisation industrielle, Olivier, est-ce que vous avez l'impression... Alors, je ne veux pas vous provoquer, mais est-ce que vous avez l'impression que vous avez une écoute suffisante de l'exécutif? Et je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, bien évidemment, sur le prochain PLF de 2026.
Oui, alors, sur votre première question... Chaque fois qu'on parle de quoi que ce soit d'aménagement du territoire, réindustrialisation, développement de ceci, de cela, c'est vrai que intrinsèquement, c'est le bâtiment. Alors, c'est vrai que nos dirigeants ont peu de mal à prononcer le mot bâtiment. Ben oui, quand on fait de l'industrie, il faut créer des bâtiments. Quand on fait... il faut aussi le mot qu'ils évitent quelquefois de prononcer, mais inconsciemment, c'est le logement. pas de réindustrialisation s'il n'y a pas de logement à côté. Sinon, les travailleurs vont arriver de plusieurs dizaines de kilomètres et donc finiront par faire des gilets jaunes. Donc, ce lien emploi-logement est très fort. Donc, à chaque fois qu'on parle de tout ça, moi, j'applaudis. Bon, on ne cite pas forcément le bâtiment et le logement, mais en tout cas, moi, j'applaudis parce que le bâtiment est partout. Donc, il faut bien être conscient. C'est un peu quand on demande aux Français quelles sont vos préoccupations principales, la sécurité, le pouvoir d'achat et la santé.
Ouais.
Le bâtiment et le logement arrivent. Mais quand on leur donne une question à choix multiple et qu'on leur marque le logement arrive en première position avec 58% des préoccupations des Français. Parce que oui, c'est le pouvoir d'achat. C'est 30% ou 35% du pouvoir d'achat de tout le monde. Loyer, remboursement de prêt, etc., etc. Et là-dessus, que ce soit l'acquisition, que ce soit les logements sociaux, que ce soit... Donc c'est une énorme préoccupation. Je suis très content aujourd'hui et maintenant, allez, depuis qu'on a fondé l'Alliance pour le logement depuis pratiquement deux ans, depuis deux ans, que nos politiques, nos élus locaux ont pris conscience. David Lisnard, hier à midi, a encore dit, et hier matin, le logement c'est un gros problème en France, c'est un échec français. Donc allons-y, et c'est pour ça que, je rebondis sur la deuxième question, je suis un petit peu long.
Oui, non, le budget, parce que le budget, il y a un vrai sujet.
C'est ça,
Alors, bien évidemment, on fait nos journalistes, mais les atermoiements du retrait de l'amendement de Valérie Létard sur le statut du bailleur privé, plus la réintroduction de ce fameux amendement par Vincent Jeanbrun, et au forceps, puisqu'il a été décalé dans le temps.
Et surtout le statut du bailleur privé qui a été voté vendredi, parce que c'est vrai qu'il est...
Ça, c'est positif.
Alors, c'est positif ou pas? Parce que vous parlez de l'Alliance pour le logement, vous avez milité justement pour ce statut. En revanche, là, les retours qu'on a de ce qui a été voté vendredi dernier par les députés, c'est assez déplorable. C'est-à-dire qu'on a fait les calculs, dans certains cas, donc vous, ce qui vous concerne, c'est plutôt l'ancien rénové hein, pour le bâtiment.
Le 9.
Et le 9 aussi,
et le 9,
oui. Pardon, oui.
Beaucoup de 9.
Mais grosso modo, l'avantage fiscal, que ce soit pour le 9 ou l'ancien rénové, c'est mieux de ne pas faire, de ne pas utiliser ce statut. C'est ce qui se dit, hein, c'est ce qu'on a calculé.
Alors, attention.
Alors, voilà.
Il faut pas...
Expliquez-nous.
Attention en sémantique.
Expliquez-nous.
Surtout ne pas dire qu'une loi ou une loi votée en première instance à l'Assemblée nationale est déplorable. Surtout pas. Moi, j'ai dit... L'Alliance et l'AFFB a été entendue sur le statut de bailleur privé. Rappelez-vous qu'on n'avait plus rien. Hein,
oui, c'est vrai. Même. Absolument.
Hein, El Pinel, on n'a plus rien depuis un an. Hein, donc,
et Valérie Létard,
les ventes se font écrouler de 30 000 à 7 ou 8 000 par an. Donc c'est un déficit encore plus de logements pour nos concitoyens. Et tous les projets qui étaient mixtes avec du logement social, acquisition, etc., il n'y a plus rien qui se fait sur le territoire. D'où le plongeon total de nos collègues des promoteurs. Et ça, il faut le souligner très fort. Si on veut relancer tout ça... La première étape, c'était ça. Créer un statut, nous l'avons fait. Effectivement, l'amendement porté par le gouvernement, pour nous, n'était pas assez puissant, 2% d'amortissement, alors que le rapport d'Aubresse-Cosson parlait de 5% d'amortissement sur 20 ans. Voilà, j'ai vu le...
Là, c'est 3,5 à 5,5, alors, mais pour des logements à loyer intermédiaire, neuf à loyer intermédiaire, logement social et logement très social.
Tout ça fait. Alors déjà, on a gagné quelques pourcentages. On est
et
à
dans
3,
la
5.
Limite de 8 000 euros. Hein.
Tout à fait. Alors il y a des choses, effectivement, qui ont été rajoutées, vous l'avez dit, par sous-amendement. Ouais. Il y en a d'autres qui sont positifs. On est monté de 2 à 3,5. On n'est pas encore à 5. On verra, même si on reste à 3,5. En revanche, ce qui a été mis à côté, oui, on a l'impression qu'on nous met des barrières. Ouais. C'est un 110 mètres haies ou un 400 mètres haies, voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi votée en première instance passe au Sénat.
Oui, et le Sénat devrait l'améliorer.
Alors, devrait, on ne sait jamais, mais en tout cas, va l'améliorer, c'est ce que je dis, va l'améliorer. Et les intentions que l'on a, les sénateurs que je rencontre, que nous avons rencontrés depuis des semaines et des semaines, avec M. Dobrez, mais aussi, on peut citer beaucoup en fait, de sénateurs qui sont très intéressés sur le logement et qui sont très conscients de cette crise du logement, eh bien, vont améliorer ce système. Pourquoi ? Pour le rendre attractif pour les investisseurs que nous sommes tous.
Ou sinon, ça ne servira à rien.
Même les gens modestes qui voudraient acquérir un logement, le louer pendant un petit peu de temps et ensuite le récupérer peut-être à la retraite. Voilà. Donc, vont l'améliorer. Et ensuite, une fois que ça sera amélioré, eh bien, il y aura une confrontation dans ce qu'on appelle la commission mixte paritaire.
Oui, la c'est la CLP, navette parlementaire.
Navette où il y aura à la fois des députés et des sénateurs. Et qui vont se mettre d'accord. Et là, nous espérons que le consensus quasi général que nous avons trouvé. Prennent toute sa puissance.
Bien sûr.
C'est-à-dire que ce statut de bailleur privé sorte peut-être pas d'une façon à 1000% ce qu'avait préconisé le
justement, in fine, pour vous, ce serait quoi l'idéal ?
Les améliorations par le Sénat et ou par la commission mixte paritaire, ce serait quoi ?
J'espérais quoi ?
Vous l'avez dit, peut-être travailler sur le pourcentage, mais si on n'arrive pas sur le pourcentage, c'est vrai que voilà, on a mis des déductions fiscales, on a mis des plafonds, des barrières.
La TVA
Alors, TVA aussi, mais il y a aussi des choses...
Une obligation de louer 12 ans, le logement...
Voilà, tout ce qui a été rajouté sur cet amendement qui était, je mets pour voir, c'était un peu ce thème-là. Aujourd'hui, il va être amélioré, je le sais, je l'espère, je souhaite, bien sûr, sauf catastrophe politique.
On l'espère jamais. Tous, en tout cas.
On l'espère tous, parce qu'il n'y a aucune autre solution pour relancer la construction neuve. On le sait, la dernière...
Et pour créer des logements.
Et le SDES, donc, organisme étatique, a dit qu'il fallait 5 millions de logements d'ici 15 ans. Donc, si on n'en construit pas 400 000 tout de suite, les prochaines années, on n'y arrivera pas. Donc, évidemment, aujourd'hui, on est à peine avec 260 000 logements. Il y a aussi un besoin démographique. On a pris beaucoup de retard pour le logement des Français, que ce soit le logement privé. Le logement social aussi, il y a des mesures qu'on a travaillées aussi avec tous les groupes parlementaires, la RLS et tout ça, c'est aussi l'Alliance pour le logement et le bâtiment et la FFB à pousser là-dedans, c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, on espère que le consensus de raison, 1 euro investi, c'est surtout ça qu'il faut voir, 1 euro investi dans le bâtiment, dans la pierre pure, aide, subvention, prêt, etc., en rapporte 5. Hein, les chiffres, on les a. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, si on ne fait rien, eh bien, moins de rentrées fiscales, moins d'activité, du chômage, etc.
Dernière question, pour conclure, vous avez annoncé des chiffres sur les emplois dans le bâtiment, vous avez été assez amer, on peut le dire, dans vos prises de position, est-ce que, alors on peut, bien heureux celui qui fera des pronostics, mais on est à l'aube des élections municipales. On est à un an et demi, quasiment deux ans, presque deux ans, des élections présidentielles et législatives. Si on devait aujourd'hui prendre la photographie du marché de la construction, vous qui regroupez tous les artisans du bâtiment, on en est où aujourd'hui ? Est-ce que le vert est un vert pâle ou est-ce qu'on est encore dans le rouge ?
Non, on est dans l'orangé, oui, on est dans l'orange. C'est-à-dire qu'on va perdre quand même sur l'ensemble de l'activité, de l'artisanat, PME, ETI et même jusqu'à nos grands groupes.
On continue à détruire les emplois ?
Oui, on va perdre en plus de 4% de chiffre d'affaires cette année. Même si on restructure pour gagner en productivité et essayer de garder de la marge, c'est quand même des chiffres qui sont plutôt inquiétants. Et malheureusement, 2025, on va perdre encore 30 000 salariés équivalents temps plein. C'est pas forcément des défaillances d'entreprises, parce que heureusement ça s'est calmé, sauf chez nos plus petites entreprises.
C'était dramatique quand même.
Où c'est très compliqué.
C'est dramatique.
Voilà, mais on a perdu 30 000 salariés l'année dernière, on en perd 30 000 cette année, équivalents temps plein.
On en a perdu combien au total ?
65 000.
C'est des gens qui se font licencier, c'est quoi ces 30 000 ?
Pas forcément, c'est des gens aussi qui partent.
À la retraite.
Qui partent à la retraite.
Mais qu'on va pas renouveler.
Voilà, ou qui partent dans d'autres secteurs qu'on ne renouvelle pas parce que, en face, nous craignons le manque de chiffre d'affaires. Vous savez, on se le dit tout le temps, le bâtiment, le logement particulier, c'est un temps long. Chaque fois qu'on décide quelque chose, pour que ça soit effectif, il faut un an et demi, deux ans, et avant qu'on mette la clé dans la porte, il faut 4-5 ans. Donc, le temps long, évidemment, il faut y travailler aujourd'hui. Si on ne veut pas arriver à une crise totale, sociale, sociétale, explosive, en 2027,
franchement,
pour les élections, il faut agir maintenant.
On a l'impression, parce que vous avez raison de le dire, mais pour faire pivoter le paquebot et reconstituer une offre, reconstituer, retravailler sur les chantiers, les opérations, on a l'impression qu'il faudra plus de 3 ans, là.
Beaucoup d'opérations sont prêtes si jamais ce statut de bailleur privé démarre, parce qu'il y aura une mixité
ça pourrait donner un appel
avec du logement social, avec de l'acquisition, avec du locatif. Et en fait, il y a beaucoup de dossiers encore qui n'ont pas purgé encore toute l'autorisation du permis de construire, qui peuvent commencer dans quelques mois. Évidemment, le gros des troupes, c'est-à-dire le gros de l'activité, avec ce statut de bailleur privé, nous verrons les effets que début 2027, mi-2027, mais en tout cas, on aura l'espoir de construire parce que nos amis, les promoteurs, auront vendu avant, et ça, c'est très positif.
Et ben, c'est ce qu'on va espérer pour le logement des Français. Un immense merci d'être venu sur le plateau.
Merci beaucoup.
Et d'avoir pris sur votre temps Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment, à suivre nos amis de UWG qui vont venir nous rejoindre sur le plateau. On attend également des maires qui vont venir prendre la parole sur notre plateau. Olivier Saleron, on vous souhaite un excellent salon des maires, et on se retrouve dans quelques instants.
Le Salon des maires et des collectivités locales du 18 au 20 novembre 2025 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Procivis et IDPRO sur Radio Immo et Radio Territoria.